Bonjour, bienvenue à Panorama Économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Au sommaire de cette émission, il s'est tenu en marge du 14e sommet de la francophonie, un forum économique qui a réuni cette semaine les entreprises et les investisseurs du monde francophone à Kinshasa. Et puis la création d'une école de commerce francophone et d'une banque francophone d'appui à la promotion de la femme sont parmi les recommandations de ce premier forum des entreprises du monde francophone. Le ministre de l'économie nationale demande aux autorités de la province du Katanga de faire respecter l'arrêté portant interdiction aux opérateurs économiques étrangers d'exercer le petit commerce et la vente en détail. Et nous allons en parler dans cette émission Panorama économique. À la présentation, Jocelyne Moussaoupondé et Paul Matendo. Nous recevons pour commenter et analyser l'actualité de la semaine Armand Mounou, chercheur indépendant dans les questions financières et économiques. Il a publié depuis les débuts de cette année 3 articles économiques. Nous en parlerons dans cette émission. Bonjour Monsieur Mounou.
Bonjour Madame Jocelyne.
Panorama économique, le dossier.
Il s'est tenu à Kinshasa du 8 au 10 octobre un forum des entreprises et investisseurs du monde francophone.
Ce forum, initié par les chefs d'État membres de la francophonie, a voulu placer l'économie au centre de l'organisation afin de lui assurer un avenir meilleur. La francophonie est forte de près de 80 pays dans le monde avec 890 millions d'habitants et d'importants marchés et pourtant faible par rapport à d'autres blocs linguistiques. Le forum de Kinshasa y a réfléchi Daniel Tamizoni pour plus de détails.
Ces faiblesses de la francophonie face au bloc anglophone, lusophone, face au bloc chinois et japonais et d'autres, se traduiraient par le manque d'infrastructures, le manque de financement et presque pas de liberté de circulation des agents économiques à l'intérieur même des pays francophones, opposés à des barrières tarifaires. Tous les intervenants l'ont reconnu dans leur discours d'ouverture. Ce diagnostic déjà établi lors du forum organisé en marge du sommet de Québec au Canada en 2010 devrait être passé en revue au cours des présents travaux. Les discours ont laissé place au débat des participants réunis en panel. Des propositions pour renforcer la compétitivité de la francophonie ont été faites, au nombre desquelles lutter contre les barrières tarifaires qui empêchent la bonne marche des affaires dans l'espace francophone. Le patron du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a proposé quant à lui la création d'un réseau regroupant les différentes agences de promotion d'investissement francophone. Ceci permettrait une bonne et large diffusion d'informations disponibles. Pour l'Agence nationale de la RDC en charge de la promotion des investissements, l'ANAPI en sigle, qui organise cette rencontre avec ses partenaires, le forum de Kinshasa est une opportunité de partenariat business to business entre les membres des différentes délégations réunies.
Et ce premier forum économique francophone, clôturé mardi à Kinshasa, a formulé 13 recommandations à l'intention des chefs d'État attendus au 14e sommet de la francophonie.
Ces résolutions visent à consolider la solidarité et la compétitivité des pays francophones face à d'autres courants linguistiques. Cependant, la crainte des observateurs, c'est de voir ces recommandations souffrir dans leur application vu la faible participation des membres. Parmi les recommandations, la création d'une école de commerce francophone et d'une banque francophone d'appui à la promotion de la femme.
Voilà, et nous allons tout de suite nous tourner vers notre invité, Armand Mounou. Vous venez de suivre cette actualité, une école de commerce francophone et une banque francophone d'appui à la promotion de la femme, c'est ce qui manque vraiment pour un essor économique du monde francophone.
Ce sont de bonnes idées pour le développement de l'Afrique francophone, mais en réalité, il faudrait d'abord penser à pacifier cette Afrique francophone.
Donc pour vous, c'est le côté politique hein, qui doit d'abord primer
d'abord
sur
le côté politique,
économique.
Oui. C'est les côtés politiques qui doivent d'abord primer, instaurer le climat de paix. Et quand le climat de paix est instauré, on va passer maintenant à l'étape qui suit, qui est l'élaboration d'un plan d'affaires commun afin de faciliter les transactions entre les pays membres.
Mais au niveau de l'OIF, on estime que la francophonie politique et la francophonie culturelle est déjà une réussite et qu'il faudrait maintenant s'atteler sur la francophonie économique. Vous n'êtes pas de cet avis?
Je ne suis pas de cet avis. Là, c'est la politique. C'est ce qu'ils nous font voir. Mais en réalité, ce qui s'est fait, ce n'est pas la réalité. Nous voulons un climat de paix dans tous les pays, entre les pays francophones. C'est alors que nous pourrons parler de l'économie. C'est alors que nous pourrons parler d'une certaine amitié sur le plan économique. Sinon, si on n'arrive pas à pacifier nos relations, comment nous allons nous mettre autour d'une même table et parler de l'élaboration d'un plan commun de développement, un plan commun d'affaires? Ça sera un peu compliqué.
Et êtes-vous de l'avis de ces personnes, de ces quelques personnes qui pensent que l'appartenance de la RDC à la francophonie n'est pas une très bonne chose, étant donné qu'il n'existe pas vraiment un leadership, surtout dans le monde des affaires, hein, dans l'espace francophone?
C'est ce que je voulais dire. Donc, vous me rejoignez, madame, parce que là, pour avoir un leadership sur le plan des affaires, il faudrait une certaine unité. Vous allez vous mettre autour d'une table et parler le même langage. C'est alors que vous pouvez faire quelque chose de bon. Mais tant que vous êtes déjà en tractation sur le plan politique, il y a des différences, c'est un peu difficile de parler d'une économie unie. Parce que là, il y aura des effets politiques qui interviendront. Il y a la monnaie qu'il faut chercher à unifier, parce que vous parlez le même langage sur le plan des affaires, il faut unifier cette monnaie. Ça, c'est une question politique. Donc, il faudrait nécessairement qu'il y ait la paix dans notre zone africaine pour nous faire parler disons, une paix sur la zone francophone pour parler de cette unification sur le plan économique.
Voilà, autre chose à présent, la mesure prise par le gouvernement central suivant un arrêté ministériel signé le 18 septembre dernier par le ministre de l'économie et du commerce portant interdiction aux opérateurs économiques étrangers d'exercer le petit commerce et la vente en détail n'est pas d'application à Lubumbashi.
Constat fait le week-end dernier par le ministre national de l'économie et du commerce en séjour à Lubumbashi, Jean-Paul Nemoyato, s'est dit surpris de constater que les opérateurs économiques étrangers continuent de vendre en détail. Jean-Paul Nemoyato, ministre de l'économie nationale, est au micro de Paul Mundanga.
Nous devons être très regardants. Seul, je ne peux rien. Mais avec vous, nous pouvons tout faire. Le gouvernement a déjà fait son premier pas. Ces mesures n'ont pas existé. Ce qui fait que je demande aux structures du ministère de l'économie et commerce, c'est-à-dire les divisions provinciales, le gouvernement provincial, je demande à tous ses amis qui sont des responsables au niveau de la province pour qu'ils puissent veiller à l'effectivité de ces mesures. Les sanctions, elles sont là. On peut vous blâmer, on peut, si vous persistez, vous retirer même les numéros du registre de commerce. De toute façon, il y a les cours et tribunaux qui sont là pour interpréter la loi et d'infliger des sanctions. La sanction la plus extrême, nous pouvons à tout moment procéder même au niveau des expulsions.
Voilà le même constat de cette non-application de cet arrêté ministériel est fait aussi ailleurs dans le pays.
Oui, Jocelyne, au Conseil occidental par exemple, l'association des commerçants de Chikapa a dénoncé la pratique du petit commerce par les expatriés. Elle demande au service local de l'économie d'appliquer cet arrêté du ministre des tutelles interdisant le petit commerce aux étrangers.
Voilà Armand Mounou, on évoquait la semaine dernière dans cette émission même l'absence de l'autorité de l'État. Plusieurs mesures sont prises par le gouvernement, mais ne sont pas appliquées. C'est le cas de cet arrêté du ministre du Commerce.
Je venais de dire tout à l'heure que tout prime sur la politique. Nous pouvons tout faire, mais si nous ne comprenons pas la profondeur de l'affaire, ce serait un peu compliqué de trouver des solutions au problème. Les sociétés qui ne veulent pas respecter la loi, nous devons savoir pourquoi elles ne respectent pas. Et un, peut-être que parce que...
Et pourquoi, selon vous,
ouais? Oui, c'est pourquoi je voulais développer un peu. Mm-hmm. Peut-être qu'il y a une certaine légèreté dans les chefs des inspecteurs économiques, ceux qui devaient exécuter la loi édictée par l'autorité. Là, c'est un. De deux, il faut vérifier les régimes de ces sociétés-là. Est-ce que ces sociétés sont réellement des sociétés étrangères? Ça, c'est très important. Sinon, nous allons commencer à parler et nous croirons que ces gens sont en train de boycotter la loi. Il y a des actionnaires dans ces sociétés. Les petits commerces, c'est vrai, mais ils ont des numéros de commerce et des registres de commerce. Il faut aller vérifier les numéros des registres de commerce
Les numéros de commerce pour exercer le commerce, un commerce justement d'une certaine dimension. L'importation n'est pas interdite, la vente en gros n'est pas interdite aux expatriés, mais c'est le petit commerce et le commerce en détail pour laisser un peu d'emploi aux nationaux. Aussi.
Ne vous en faites pas. Moi, je peux épouser une femme étrangère qui est avec moi, qui vit avec moi, mais en réalité, c'est moi qui prends les devants sur la société. Mm-hmm. Mais vous ne me voyez pas. La personne que vous voyez, c'est la dame blanche. Alors qu'en réalité, le propriétaire de la société, c'est un Congolais.
Oui.
Là, c'est un problème très important. Alors, quand vous allez vérifier les documents, quand les inspecteurs économiques vont vérifier les documents, ils réalisent que réellement, ce n'est pas un blanc. C'est un Congolais qui exerce ses activités normalement. Alors la population, pour elle ne voit que les expatriés qui sont devant, qui travaillent, alors qu'en réalité, c'est le plan légal, c'est le plan de documents lui attribué par les tribunaux de commerce. C'est les Congolais réellement qui en est propriétaire.
Mmh. Et est-ce que les Congolais n'en profitent pas justement pour couvrir les expatriés?
C'est ce que j'ai dit. Les Congolais se sont arrangés dans ce sens-là pour couvrir les expatriés et en contrepartie, ils trouvent leur compte. C'est ça aussi le problème.
Et puis d'un autre côté, là on essaie de laisser un terrain libre aux hommes d'affaires congolais, mais en réalité... Les gens n'ont pas de moyens financiers et ne savent pas vraiment prendre le relais. Hein.
Ne vous en faites pas.
Donc certains coins, par exemple à Matadi, on parlait d'un vide dans les commerces en détail de certains produits.
Et c'est ça le problème. Nous, les Congolais, nous ne faisons que parler. Mais en réalité, nous n'avons rien.
Les Congolais, j'estime que ces hommes d'affaires veulent bien faire quelque chose, mais il manque, le gouvernement doit peut-être donner les moyens à ces gens.
Je pense que dans ce sens-là, peut-être qu'il faut parler.
Pour compléter, justement, Jocelyne, il y a d'autres analystes qui pensent que l'État devrait créer des sociétés financières qui devraient donc prendre en charge les initiatives locales.
Bien sûr, mais vérifions sur le terrain. Tout ce qui est local coûte cher. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Tout ce qui est produit localement coûte très cher.
Parce que les intrants sont importés et coûtent cher.
Et ce que l'expatrié nous apporte coûte moins cher.
Mais ça,
c'est
ça
là
revient.
Le grand problème.
Le problème doit être résolu au niveau du gouvernement, de la politique.
Au niveau du
pays,
gouvernement. Mais dans les cas d'espèces, moi je crois et je suis convaincu que les Congolais font partie de ces entreprises. Ils couvrent les expatriés. Et en contrepartie, ils se retrouvent.
Est-ce que vous avez un cas, des cas concrets?
Je ne peux pas les dire tout haut, parce que ça, c'est pire.
C'est une accusation,
je peux pas les faire. Mais ça se passe comme ça.
Et comment résoudre justement le problème?
Je vous rejoins. L'État doit intervenir dans les secteurs primaires de la société. Dans les petites et moyennes entreprises. Il doit promouvoir les activités des petits commerçants. C'est alors qu'on peut résoudre ces problèmes. Mais tant que nous continuerons à dépendre des étrangers, dépendre des activités des hommes d'affaires qui viennent de l'étranger, cette situation va continuer. Et nous serons toujours en train de nous plaindre sans pourtant trouver des solutions.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations, bref, la douane de Kasumbalesa au Katanga réalise actuellement 40 fois plus de recettes annuelles par rapport à la période qui a précédé l'installation du guichet unique.
Déclaration du ministre national de l'économie et du commerce lors de sa visite au Katanga. Pour Jean-Paul Nemoyato, de 1 milliard de francs congolais par an avant l'installation du guichet unique en 2006, les recettes avoisinent actuellement les 50 milliards de francs congolais. Il justifie cette performance par la lutte acharnée contre la fraude.
Et la bancarisation de la paye sera effective dans les chefs-lieux des provinces à partir de ce mois d'octobre.
Sauf pour la province du Katanga, Jocelyne, où la ville d'Ilikasi sera également concernée. Le vice-premier ministre en charge du budget l'a affirmé mardi à l'issue de la réunion de la troïka stratégique du gouvernement. Daniel Mukokosamba a également confirmé l'effectivité de la paix des officiers de l'armée et de la police pour la fin de ce mois à Kinshasa. Notons que la troïka stratégique qui se réunit chaque semaine à Kinshasa examine la situation économique et financière du pays.
Au nord Katanga, la Société nationale d'électricité tire la sonnette d'alarme sur les dangers que font peser sur la centrale hydroélectrique de Bendera les creuseurs artisanaux de l'or.
En creusant de l'or en amont de la rivière Kiimbi qui alimente la centrale, la terre ainsi excavée est charriée vers le bassin des retenues des eaux et même au niveau de la machine. Le directeur des districts ad intérim de la SNEL en appelle donc à l'arrêt de cette exploitation artisanale de l'or.
Voilà Armand Mounou, vous êtes notre invité. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant dans les questions financières et économiques. Est-ce qu'il y a une information parmi ces trois qui a particulièrement retenu votre attention?
C'est la bancarisation de la paye dans les provinces.
Oui.
C'est une initiative que je salue. Le gouvernement a pris une très bonne initiative. Et cette initiative permet d'éviter les détournements. Ça permet au gouvernement de faire un bon contrôle. Ça permet à ce que des choses que nous avons déplorées depuis plusieurs années puissent se stopper. Une gouvernance moderne nécessite une bancarisation de la paye. Ça nous permet même de pouvoir influencer nos activités économiques.
Et de contrôler, la masse monétaire.
Ça, c'est très important. Et moi, je salue cette initiative de ce gouvernement.
Mm-hmm.
Et en plus de cela, il faudrait que le gouvernement prenne ses dispositions pour la faisabilité. Parce qu'à l'intérieur du pays, il se pose un problème
des banques commerciales.
Et des moyens de communication. Disons des moyens de transport.
Oui.
Et des voies même de communication, des routes. Les fonctionnaires de l'État se trouvent même au village, jusqu'au village. Alors, ces villageois-là doivent percevoir leur argent. Ils ne doivent pas attendre leur argent une semaine après. Donc là, c'est question d'une bonne faisabilité afin d'atteindre cet objectif.
Ouais.
Sinon, c'est vraiment une initiative à féliciter et à encourager.
Panorama économique, matière première.
Matière première, on observe une hausse de prix du ciment gris à Kindu au Maniema. Un sac de 50 kilos est passé de 37$ à $46 depuis une semaine.
Selon quelques opérateurs économiques, cette situation est due à l'écroulement d'un pont à Bafoisindé sur la route Kisangani-Butembo. La situation devrait se décanter avec les bateaux du Maniema Union qui est attendu dans cette ville.
Voilà Armand Mounou, ceci relance en quelque sorte les débats sur la construction ou l'installation d'une cimenterie dans la partie est du pays qui dépend totalement de la partie ouest.
Nécessairement. Il faudrait vraiment penser à mettre en place une cimenterie à l'est du pays.
Mmh.
En fait, quand les Belges sont venus, apparemment, ils s'est plus focalisé vers l'ouest du pays. Si nous voyons, la plupart des grandes entreprises qui étaient ici au Congo se retrouvaient à l'ouest. Et maintenant, c'est cette façon de voir les choses est restée jusqu'à présent. Donc, nous avons vraiment une obligation, les gouvernements en fait, à cette obligation d'équilibrer ça, c'est déséquilibre qui existe sur le plan économique.
Mm-hmm.
À l'est, il n'y a pas vraiment d'entreprise, si ce n'est qu'au Katanga où il y a des entreprises minières. Alors, la construction d'une cimenterie à l'est du pays serait d'une très grande importance.
Mais c'est depuis plus de 2 ans que la province orientale attend la construction de la cimenterie de Sipport, cimenterie de la province orientale.
C'est ce que je dis. Donc, il faudrait que le gouvernement fasse vraiment un effort là-dessus pour éteindre cette situation qui est en train de faire souffrir la population. Mmh. Maintenant, on parle d'un pont qui s'est écroulé.
D'un pont, oui.
Bon, là, c'est question de c'est une question économique. Quand les matières sont en pénurie, en tout cas, ça crée toujours une certaine hausse parce qu'il y a une rareté qui se crée. Donc, de 37 à 46 dollars, ce n'est que normal parce qu'il n'y a plus de ciment sur le terrain. C'est ce qui crée cette façon de voir les choses. Même si le gouvernement intervenait, même si les services de l'État intervenaient dans ce sens pour déplorer ces comportements, ne réussiront pas. Parce que là, ce seraient des mesures qui n'ont pas d'efficacité. Tant qu'il y aura rareté, ça finira toujours par augmenter les prix. Et même si, visiblement, ils ne vont pas les vendre, et aux vies aussi de tout le monde, ils vont les vendre en cachette. Ça, c'est un peu ça. Donc, il faut vraiment des mesures qui doivent permettre à ce que, disons, les prix soient stabilisés. Donc, tant que ce pont sera toujours en défection, il y aura toujours aussi des prix.
Peut-être donc, on doit voir aussi l'état des routes,
oui.
Des ponts.
Vous pourrez voir l'état des routes. Donc, il faut qu'il fasse vite pour réparer ces ponts afin de stabiliser la situation.
Panorama économique, reportage.
Le reportage qui a retenu notre attention cette semaine est celui sur le changement climatique dont souffre la planète Terre et qui entraîne des conséquences économiques non négligeables.
Au Katanga, par exemple, Jocelyne, on déplore la baisse de la production de la pêche et de l'énergie électrique. Denise Maillot pour le reportage.
Les personnes les plus touchées par le tarissement des lacs et rivières ou même la réduction de leur superficie sont des milliers de populations riveraines. À Bukama, où l'activité principale est la pêche, il y a baisse de production. En plus de l'usage par les pêcheurs des filets à mailles prohibées, le tarissement de certains lacs en est la cause. Certaines espèces de poissons ont même disparu. Mbayo Mwanabute, président de la Fédération des pêcheurs de Bukama, en cite quelques-unes. Ce ne sont pas des noms scientifiques des poissons.
Il y a Nyondo, il y a Mpuma, c'est vraiment tout est appelé des poissons. 3/4 de nos poissons qu'on trouve en abondance ici chez nous, vraiment sont disparus.
Un autre secteur touché est celui du transport lacustre et fluvial. Gilbert Mouton-Collet, chercheur sur la conservation de la nature.
Le fleuve Congo est l'une des côtes en dehors des routes de cette agricole, des routes provinciales, qui faisait la jonction entre le chemin de fer et les différents villages situés de part et d'autre du fleuve. Aujourd'hui, parce que les lacs et le fleuve tarissent progressivement, pendant la saison sèche, même les petits bateaux, même les petites baleinières ne savent pas circuler. Donc c'est l'économie qui est freinée.
Les centrales hydroélectriques du Katanga ne sont pas épargnées. Déjà en février de cette année, Fridolin Kumbu, directeur provincial de la SNEL, évoquer les conséquences du changement climatique.
Ces jours ici, nous avons des problèmes liés plus au changement climatique. Depuis que nous avons commencé cette année pluvieuse, nous avons constaté que la tendance du niveau du lac de Nzulo était dans la descente. Ce que nous avons proposé, c'est la réduction de la charge au niveau des consommateurs, au niveau des industriels. Donc il y aura au moins un déficit de 154 mégawatts.
Les chercheurs appellent ainsi le pouvoir public à évaluer les ressources hydrauliques actuelles du pays avant de prendre des mesures de leur gestion.
Voilà, les changements climatiques avec des conséquences économiques. Un commentaire, Armand ?
Effectivement, nous avons un problème d'anticipation dans notre pays. Parce que les changements climatiques, nous entendons parler de cela il n'y a pas moins de 10 ans.
Ouais.
Depuis plusieurs années, on parle du changement climatique. Mais, fort malheureusement, le Congo est resté avec les seuls moyens pour produire le courant qu'est l'eau. Alors que sous d'autres cieux,
oui.
ils ont déjà anticipé cette façon de voir les choses.
Et puis, ce n'est pas les moyens qui manquent.
Nous, au Congo, nous avons plusieurs moyens de production d'électricité.
On a le vent, l'éolienne peut être
Je suis l'ingénieur,
le soleil. Et
quand je suis l'ingénieur qui est en train de parler tout à l'heure, une fois que les moyens hydrauliques pour la production du courant, parce que le gouvernement n'arrive pas à anticiper les choses. Nous tournons autour de la guerre, nous tournons autour des bassesses, des choses qui peuvent faire avancer les pays, nous n'en parlons pas. C'est ça le grand problème de notre pays.
Mais ça, c'est au niveau de la production de l'énergie électrique.
Oui.
Mais du côté de la pêche, comment contourner le problème?
Bon, du côté de la pêche d'ailleurs, on n'a même quand il y avait l'eau, quand il y avait suffisamment l'eau, on n'a jamais fait une pêche industrielle au Congo.
Et maintenant,
c'est une pêche artisanale. C'est ça, vraiment, ça ne touche pas vraiment. C'est peut-être les coins, les artisans qui en souffrent. Mais sur le plan national, je ne vois pas l'impact de cette difficulté. Peut-être que c'est dans ces coins-là du pays, ils ont une difficulté parce que les paysans sont en train de vivre de cette activité. Maintenant qu'il n'y a plus l'eau, ils sont en difficulté. Mais sur le plan national, les gouvernements d'antan, actuellement, je ne sais pas s'ils sont en train de mettre en place un projet là-dessus, n'a jamais pensé à une pêche industrielle. Donc ça, c'est déplorable. Et je pense que ceux qui sont là, les gouvernements qui sont en place, pourront avoir et monter des stratégies pour penser là-dessus. Sinon, nous allons regretter, nous allons continuer à parler de la potentialité au Congo, alors que nous-mêmes, nous n'en bénéficions pas.
Oui.
Ça, c'est vraiment difficile, c'est déplorable. C'est un peu ça.
Mais on espérait, même si cela ne se faisait pas, on espérait quand même un jour manger du poisson de nos eaux, et maintenant que les eaux disparaissent.
C'est ce que je disais. Donc, on parle de la potentialité, alors que nous sommes en train de voir nos histoires disparaître sans pourtant en manger. C'est vraiment regrettable pour un pays si béni, un pays économiquement. Est fort, c'est le plan de la potentialité. Mais nous n'arrivons pas à bénéficier de nos richesses. C'est vraiment malheureux.
Voilà, Armand Mounou, nous allons arriver vraiment à la fin de cette émission. Je disais tout au début que vous avez publié, depuis le début de cette année, 3 articles économiques. Et vous avez fait une réflexion sur la fiscalité congolaise intitulée « L'impôt professionnel sur les revenus et la taxe sur la valeur ajoutée pour quelle application socio-psycho-économique ». Et puis la deuxième réflexion « Impôt et croissance économique, analyse et orientation ». La toute dernière « Quel type de gouvernance d'entreprise en RDC pour un développement assuré et une transparence dans la gestion ?» Analyse et réflexion, qu'est-ce que nous pouvons lire dedans?
Ma troisième réflexion est en train de parler d'une certaine sincérité dans la gestion de notre pays. Nous avons constaté, depuis que moi je suis né, j'ai 37 ans, mais je constate que rien ne marche. Pourquoi ça ne marche pas? Alors que nous avons d'éminents professeurs, nous avons étudié dans les mêmes écoles, et que ceux qui sont en train de faire des exploits dans le monde. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je pense qu'il y a un problème de gestion, un problème d'hommes dans notre pays. Alors, il faut un certain comportement à adopter pour nous permettre de nous égaler ou peut-être de pouvoir suivre l'exemple de ceux qui sont en train d'avancer. C'est comme ça que j'ai énuméré quelques points qui ne sont pas des points catégoriques. Mais j'ai dit aussi que parmi ces points font partie des éléments qui peuvent contribuer à la croissance économique, qui peuvent contribuer à une bonne gouvernance et assurer un développement et une bonne transparence dans la gestion de notre pays. Parmi ces points, j'ai parlé de la culture de l'auto-évaluation du contrôle interne. C'est l'un des points importants pour pouvoir parler d'une très bonne gestion et de la transparence dans l'économie.
Oui, on va en citer peut-être deux ou trois, parce qu'on est vraiment arrivé à la fin.
Oui, le respect et le souci du développement de l'intérêt du patrimoine de la société. Et il y a le troisième point, j'ai parlé de Il faut rendre efficace les managements des hommes et assurer leur motivation. Nous avons un problème de motivation dans ce pays. Nous avons un problème de formation. Il y a des gens qui ont étudié depuis plusieurs années qui n'arrivent pas, qui ne sont plus, qui ne s'adaptent pas aux réalités actuelles. Et là, c'est très important. Il faudrait penser en ce sens-là, adapter notre manière de voir les choses, notre façon de travailler par rapport à la modernisation. Mais il y a aussi l'État qui doit intervenir pour pouvoir donner un coup de pouce pour le développement de nos entreprises.
Voilà. Armand Mounou, merci d'être venu dans ces studios de Radio Capi pour l'émission Panorama économique. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant et vous avez publié des articles en rapport avec les finances et l'économie. À vous, chers auditeurs, qui nous avez suivis, merci d'avoir donc suivi cette émission et rendez-vous avec l'économie, c'est déjà lundi 18h-15h de Kinshasa. Panorama économique, c'est samedi prochain midi et demi, heure de Kinshasa. Paul Matendo, merci d'avoir présenté cette émission avec moi.
Merci Jocelyne.
Bon week-end à vous tous.